France Inter. Hélène Roussel. Le 6-9.
Le grand entretien ce matin sur Inter avec la députée PS du Tarn-et-Garonne, présidente du groupe socialiste et apparentée à l'Assemblée nationale. On va parler vaccin, relance présidentielle. On vous attend au standard, auditeur. Posez-lui vos questions au 01 45 24 7000. Valérie Rabault, bonjour.
Bonjour.
On attend encore le feu vert du Conseil constitutionnel ce jeudi, mais le pass sanitaire devrait être étendu à partir de lundi prochain dans les restos, dans les trains. Insuffisant, dit le président de la Fédération hospitalière de France, qui appelle hier à utiliser l'arme absolue, c'est-à-dire la vaccination obligatoire pour tous. Vous en dites quoi ?
Mais je ne sais pas si c'est l'arme absolue ou pas. Ce que j'en dis, c'est que nous l'avons proposé il y a 15 jours. Avec nos deux groupes au Sénat et à l'Assemblée nationale, nous sommes les seuls à avoir formulé cette proposition d'avoir une vaccination obligatoire pour tous les adultes et qu'elle puisse se faire de manière organisée et concertée. Concrètement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les caisses primaires d'assurance maladie, avec votre numéro de sécurité sociale, savent si oui ou non aujourd'hui vous êtes vacciné. Eh bien, nous proposions qu'elles commencent à appeler celles et ceux qui ne sont pas encore vaccinés, qui ont plus de 50 ans, puis entre 40 et 50, etc., etc. L'objectif de cette vaccination, c'est de faire en sorte qu'on puisse atteindre une immunité collective. C'est pas de punir ou de sanctionner les Français qui ne respecteraient pas le pass sanitaire ou je ne sais quoi. Donc, je pense que le gouvernement a nous pensons que la manière dont il a procédé avec le pass sanitaire n'était pas la bonne façon de faire, puisqu'il oppose les Français entre eux, il les divise, et cela même alors qu'il n'y a pas de règle claire. La vaccination obligatoire, pour tous les adultes, c'est une règle claire, c'est une règle qui peut être mise en œuvre de manière concertée, et qui permettra, je l'espère, d'atteindre le fait que 90% de la population puisse être vaccinée, ce qui permettra d'avoir une immunité pour l'ensemble des habitants de ce pays.
Alors, au cœur de la crise, hein, bien sûr, les hôpitaux, en manque de lits, en manque d'effectifs.
Mais quand je vois que le président de la Fédération hospitalière fait la même proposition que celle que nous avons formulée il y a deux semaines, c'est qu'on voit bien que aujourd'hui, ce qu'a proposé le gouvernement ne fonctionne pas et surtout braque les Français entre eux.
Pour revenir sur les hôpitaux, manque de lits, manque d'effectifs, vous avez largement votre part de responsabilité, une centaine d'hôpitaux fermés sous François Hollande.
Oui,
alors est-ce qu'on peut vous faire confiance encore ?
Vous pouvez tout à fait nous faire confiance, puisque ce qu'il faut, on peut regarder les lits, mais on peut aussi regarder les effectifs de la fonction publique hospitalière, qui entre 2012 et 2017 ont augmenté. C'est-à-dire le nombre de soignants qui sont au sein de la fonction publique hospitalière. J'observe qu'entre 2017 et 2019, il y a une légère baisse de ces effectifs. Donc, en termes d'effectifs, entre 2012 et 2017, vous avez une progression.
Vous parliez, Valérie Rabault, de l'opposition des Français les uns contre les autres. Plus de 200 000 antipasses dans les rues de France samedi dernier. La contestation semble prendre de l'ampleur. Ça vous surprend pas ?
Avec cette histoire de passe sanitaire, il y a une forme de convergence des oppositions, de ceux qui sont contre le vaccin, de ceux qui sont vaccinés mais qui sont contre le passe, et puis de ceux qui sont dans une phase de vaccination qui n'est pas achevée et qui par conséquent sont bloqués par le passe. Donc je pense, encore une fois, moi je suis pas d'accord avec la stratégie du gouvernement, parce que lorsqu'on met des règles qui sont aussi fluctuantes, un passe sanitaire qui est contrôlé sans pièce d'identité, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous pouvez facilement le falsifier et montrer celui de quelqu'un d'autre et puis vous passez comme ça. Donc en fait, ça n'a pas l'effet escompté. L'effet escompté, c'est de faire reculer l'épidémie et d'avoir une immunité collective la plus large possible. Donc, il vaut mieux partir, je le répète, sur la vaccination obligatoire pour tous les adultes, en laissant un laps de temps sur l'été, en permettant aux caisses primaires d'assurance maladie d'appeler celles et ceux qui ne sont pas encore vaccinés, pour pouvoir obtenir ce résultat, et pas d'avoir un résultat où vous contrôlez les Français lorsqu'ils vont au restaurant, au cinéma, ou je ne sais quoi.
Et quand on voit la méfiance de certains Français vis-à-vis du vaccin, si ce vaccin devient obligatoire,
ça,
vous ne craignez pas
ça me chagrine beaucoup. Je pense qu'on est en train de payer une forme de un peu de déclassement scientifique dans notre pays. Et alors même que cette force, cette croyance dans le progrès a toujours été le moteur de notre démocratie. Depuis la Révolution française, les scientifiques étaient présents lors de la Révolution française. Ils y ont largement pris leur part. Donc oui, là, il y a un énorme chantier qui va passer par l'éducation, qui fait en sorte qu'on puisse retrouver, il ne faut pas avoir une foi aveugle dans la science, mais il faut avoir cette capacité de raisonner, de se poser des questions, et dans le fond, d'avoir une forme de foi dans le progrès que nous avons toujours eu et qui a été le moteur à la fois pour notre économie, pour notre démocratie, puis la Révolution française.
Donc non au pass sanitaire et oui à la vaccination obligatoire pour tous les adultes. Oui. Pour résumer sur la crise, hein, la France affiche des performances économiques exceptionnelles, a dit Bruno Le Maire sur notre antenne la semaine dernière. Vous le félicitez ?
On n'a pas tout à fait la même définition du mot exceptionnel, parce que la croissance économique et la création de valeur et de richesse dans notre pays au deuxième trimestre est inférieure à celle de l'Allemagne. On est toujours très en dessous de notre niveau de richesse au 31 décembre 2019. Donc, on n'a pas du tout rattrapé l'effet de la crise. Donc, je mettrai un petit peu de nuance dans ce que dit le ministre de l'Économie et des Finances. Mais il est sûr qu'il y a eu une forme de... On repart. Il y a une forme de reprise économique qui existe. C'est pas tout à fait une reprise, c'est plutôt un rattrapage, mais qui n'est pas encore arrivé jusqu'au niveau de 2019.
Valérie Abou, vous avez été rapporteur général du budget à l'Assemblée nationale entre 2014 et 2017. Il faut continuer le quoi qu'il en coûte. Quand on voit les ciné, les parcs d'attractions, la fréquentation en chute libre avec le pass sanitaire, est-ce qu'on peut continuer
Alors, moi, il y a deux visions. Il y a sur l'urgence, je partage les mesures et je salue les mesures qu'a pris le gouvernement, à l'exception du fait qu'il n'a rien fait pour la jeunesse. Ça, c'est vraiment un gros ratage de la part de ce gouvernement. En revanche, sur la relance, ce qui n'est pas l'urgence, sur la relance, là-dessus, j'ai des critiques qui sont assez fortes, puisqu'il y a du saupoudrage, et le saupoudrage, ça ne fonctionne pas. Ce qu'il faut, c'est se concentrer sur 4 ou 5 secteurs clés qui jouent un rôle d'effet d'entraînement pour l'économie, pour tout le reste de l'économie.
Le secteur de la restauration et de l'hôtellerie, quand même, a été très ciblé, par exemple.
Pour l'urgence, c'est ce que je dis. Là-dessus, sur l'urgence, je salue les mesures qui ont été prises. Mais il faut aussi préparer l'avenir. On voit bien aujourd'hui que, par exemple, vous prenez les puces électroniques, il y a une pénurie qui existe. Pourquoi est-ce qu'il y a une pénurie qui existe? Il y a 20 ans, l'Europe produisait 40% des puces électroniques dans le monde. Aujourd'hui, on est à 10%. Donc, on est devenu très dépendant des autres. Et cette question-là de la souveraineté économique de l'Europe et donc de la France, elle devrait être au cœur de la relance. Quand on subit une crise comme celle qu'on a aujourd'hui, on doit en profiter pour changer aussi notre modèle. Et bien notre modèle, c'est d'être en capacité de retrouver de la souveraineté économique pour le continent européen et pour la France. Ce n'est pas ce qui est fait avec le plan de relance français, qui est très insuffisant dans le sens où il fait du saupoudrage. Vous avez 113 mesures qui vont de un petit bout d'aide pour les bornes de recharge électrique à la replantation de haies au milieu des champs. Bon, c'est très bien de replanter des haies, mais c'est pas ça qui fera de la relance un véritable effet d'entraînement. Donc il y a 5 secteurs. L'agriculture, puisque la moitié des agriculteurs vont prendre leur retraite d'ici 10 ans. Donc là, on a un vrai challenge. L'agriculture, c'est essentiel. Pouvoir se nourrir, c'est essentiel. La santé, il n'y a rien dans le plan de relance pour la santé. Et on a vu que les pénuries de médicaments continuent à être effectives aujourd'hui en France. Les transports, l'énergie et le numérique, il faut qu'on puisse avoir une souveraineté numérique. Vous mettez là-dedans, évidemment, les puces électroniques pour lesquelles... Je salue le plan européen qui a été annoncé la semaine dernière.
Et si on suit votre plan, on laisse filer la dette, 118% du PIB, record historique, on en est je crois à 2 800 milliards d'euros de dette.
Mais laisser filer la dette, ça veut dire quoi? Si vous me prêtez 100 euros, bon, si vous ne me demandez pas de vous les rembourser tout de suite, il n'y a pas de problème. Eh bien aujourd'hui, c'est la Banque Centrale Européenne qui nous prête de l'argent. Si la Banque Centrale Européenne n'avait pas été là, nous serions en cessation de paiement. Nous serions en faillite. Aujourd'hui, la Banque Centrale Européenne a la capacité, parce qu'elle porte une forme de confiance politique, à garder la dette dans son bilan. Donc tant qu'elle ne nous demande pas de rembourser, il n'y a pas de problème. Mais évidemment, ça ne peut pas être éternel, c'est-à-dire qu'elle ne va pas nous prêter tous les jours comme elle le fait aujourd'hui. Donc, ça nécessite d'avoir une capacité de relance qui soit extrêmement puissante, et ce n'est pas le cas du plan de relance du gouvernement, alors que d'autres économies, comme je pense notamment aux États-Unis, avec Joe Biden, eh bien, ont créé une forme d'élan en se disant « profitons de la crise pour faire autrement, profitons de la crise pour être en capacité de créer de la valeur », et ça, ce challenge-là n'est pas porté par la France aujourd'hui.
Valérie Rabault, vous restez avec nous, on va faire un petit tour au standard avec Michel qui est avec nous. Bonjour Michel, vous nous appelez de Paris je crois.
Oui, bonjour mesdames.
Bienvenue sur Inter, on écoute votre question Michel.
Oui, merci, je voulais revenir sur le point de le problème de la vaccination et demander à madame Rabault pourquoi elle ne poussait pas sa réflexion, elle aussi fait un peu de saupoudrage. Je pense qu'il faudrait étendre effectivement la vaccination non seulement à tous les adultes mais pourquoi pas à tous les enfants également. Par exemple, on sait que pour la grippe, les enfants constituent un véhicule de contamination important. Donc pourquoi ne pas pousser plus loin cette réflexion d'extension ?
Merci oui, Michel alors pour cette question.
Michel a raison et je partage sa réflexion. Nous avions fait cette proposition il y a 15 jours et nous tenions aussi compte d'un principe de réalité qui est les disponibilités de rendez-vous, parce que pour vacciner, il faut à la fois des doses, donc ça je pense qu'on les a à peu près, mais il faut aussi qu'il puisse y avoir des soignants, et on voit bien que là, les vaccinations se font vraiment à flux tendu, et d'ailleurs je profite de votre micro pour les remercier, les sapeurs-pompiers, les infirmiers, les médecins, enfin qui font, c'est incroyable ce qui se passe dans les centres de vaccination, vraiment. Donc il y avait aussi ce principe de réalité, mais effectivement, je rejoins ce que dit Michel, il y a notamment pour préparer les rentrées, il est important que les enfants aussi puissent être vaccinés. Nous avions dit obligatoire pour les adultes, avec ce souci de réalité, parce que, encore une fois, édicter des principes et pas être en capacité de les mettre en œuvre, je pense que ça tue le principe.
Il y a 11 vaccins déjà obligatoires pour les enfants, sur des maladies mortelles pour les enfants. Alors, en l'occurrence, le Covid n'est pas mortel pour les enfants, pour les mineurs.
La vaccination, c'est toujours un acte pour soi et pour les autres. Quand on se vaccine, c'est pour éviter qu'il y ait des personnes fragiles qui se retrouvent en réanimation, qui meurent, on l'a vu. Donc effectivement, il y a toujours, dans la vaccination, il y a ces deux jambes-là. C'est pour soi et aussi pour les autres.
Valérie Rabault, on va parler un peu de la présidentielle, si vous le voulez bien. 6% pour le candidat PS Benoît Hamon à la dernière élection. 40 000 adhérents cette année au PS contre presque 100 000 il y a 3 ans. Ça va mal ?
C'est pas la meilleure forme, mais il faut toujours regarder les choses de manière globale. Si vous regardez les élections régionales, si vous regardez les élections départementales, moi vous savez, je suis de la région Occitanie. C'est la région où il y a eu le meilleur score pour Carole Delga, donc pour la liste PS aux élections régionales. Toutes couleurs politiques confondues. Donc ça veut dire qu'il y a une capacité à faire bouger les choses, les lignes sur les territoires. Je prends toujours, je vais citer le cas de la région Occitanie, c'est la rentrée la moins chère de France, c'est un plan hydrogène qui est développé. La région Occitanie, c'est la seule de France, la seule, pour lequel l'effort d'investissement est supérieur à 3% de son PIB régional. Alors évidemment, c'est un effort qui est porté à la fois de manière publique et de manière privée. On a une composante aéronautique qui est très forte. Et c'est la seule qui figure, par exemple, parmi les 20 régions en Europe, les 20 premières régions pour l'effort d'investissement. Donc, encore une fois, la politique, c'est évidemment être en capacité de créer un espoir vers un nouvel horizon de société. Mais c'est aussi avoir cette capacité à faire sur le territoire, à faire en sorte que les choses bougent et que chacun puisse en voir les conséquences sur sa vie. Donc ça, c'est ce qui s'est passé, par exemple, dans la région Occitanie. Il y a d'autres régions où cela aussi s'est passé. Vous prenez aussi des grandes villes comme Rennes, Nantes, Lille. Il y a de véritables capacités à des équipes qui existent sur le territoire et qui portent des réalisations dans leur ville ou dans leur région. Mais je sais bien que la question, c'est de transformer l'essai au niveau national. Et là, on n'y est pas encore.
Et là, le PS ne parle plus aux classes populaires.
Pourquoi le PS ne classe plus aux classes populaires ? Quand vous faites la rentrée la moins chère de France, vous croyez que vous ne parlez plus aux classes populaires ? Mais bien sûr que si.
Ça, c'est sur les régionales. Mais c'est
pour ça que je vous dis, c'est comme au rugby, il faut transformer l'essai pour faire en sorte que, au niveau national, on puisse avoir véritablement retrouver une crédibilité.
Et puisqu'on parle des régionales, nous avons une question à ce sujet au standard. Bonjour Jean-Pierre, je crois que vous nous appelez de Lyon.
Oui, tout à fait, oui, bonjour.
Nous vous écoutons.
Oui, alors voilà, moi je veux vous dire que je suis un socialiste, j'ai été au Parti Socialiste pendant plus de 22 ans, donc voilà. Moi je voulais savoir, est-ce que le PS est prêt pour les présidentielles à s'allier de façon lamentable, comme ça s'est produit en région Aura, avec des écologistes sectaires, qui s'en prennent uniquement à l'utilisation de la voiture, alors qu'on sait très bien, ils en ont parlé encore ce matin sur l'antenne de France Inter, que la pollution, elle vient surtout, le danger, il est surtout de l'utilisation des pesticides qui tuent tous les jours des cancéreux comme moi. Et je voulais justement savoir, vous avez parlé d'agriculture, qu'est-ce que vous pensez faire sur cette reculade sans cesse de l'utilisation des pesticides dans l'agriculture.
Il y a deux questions là, Jean-Pierre.
Il y a deux questions. La première, c'est l'alliance avec les écologistes.
L'alliance qui divise, donc voilà. Certains qui sont pour, d'autres, on l'entend avec Jean-Pierre, qui sont contre, et puis une sur les pesticides. Donc,
Jean-Pierre, je vais commencer par la seconde question. Sur les pesticides, quand le gouvernement a, par exemple, réintroduit les néonicotinoïdes pour la les cultures de betteraves. Nous avons été le seul groupe à l'Assemblée nationale à proposer un autre plan, un plan B, ce qu'on avait appelé, avec des propositions très concrètes qui allaient à la fois du soutien à la recherche, qui allaient à une forme de réorganisation des marchés, puisqu'effectivement sur la betterave sucrière, il y a des questions qui se posent. Donc là-dessus, nous avons été le seul groupe à formuler un plan B, parce qu'effectivement, il faut qu'on puisse avancer là-dessus. Sur la question plus politique qui a été posée par Jean-Pierre, encore une fois, ce qu'il faut d'abord définir, c'est l'objectif que nous nous fixons. Alors, vous allez me dire, je parle beaucoup de la région Occitanie, mais comme j'en suis, c'est un exemple que je connais plus que d'autres. Sur la liste régionale, la moitié du groupe des Verts est partie dès le premier tour avec Harold Delga, puisqu'il y a eu véritablement un accord qui est de dire il faut faire de l'écologie positive, mais qui passe par le faire. Et puis, il y a une autre partie du groupe d'Europe Écologie Les Verts qui n'a pas souhaité faire cette alliance, qui est partie tout seul. Et il n'y a pas eu d'accord au second tour qui a été trouvé. Donc ça veut dire qu'on est en capacité à la fois de porter des politiques qui sont ambitieuses sur la transformation énergétique et écologique, et pas forcément, en tout cas en ayant cette capacité à intégrer, à rassembler, mais pas forcément à rentrer dans des logiques qui seraient, comme vous l'avez dit, peut-être plus sectaires.
On sait qu'il y a la primaire d'Europe Écologie Les Verts qui va avoir lieu. Est-ce que vous allez discuter au PS avec les écologistes, quelle que soit la personnalité qui sortira de ces primaires ? Ou est-ce qu'il y en a une en particulier avec laquelle vous discuteriez plus volontiers ?
Alors déjà, le Parti Socialiste désignera son candidat ou sa candidate.
Donc il y aura un candidat PS, quoi qu'il arrive, c'est pas négociable.
Je soutiens Anne Hidalgo, je l'ai dit depuis quelques mois. Et puis, évidemment, chaque formation politique est libre de désigner le ou la candidate qu'elle souhaite. Et on a toujours discuté avec l'ensemble des formations politiques, et ce sera encore le cas.
Il y aura
l'ensemble des formations politiques de gauche, bien entendu.
J'entends qu'il y aura donc un candidat PS en 2022, quoi qu'il arrive.
Mais il y aura, les militants désigneront leur candidat ou leur candidate PS, et puis vous savez très bien que nous avons toujours eu une capacité, en tout cas la volonté de rassemblement. Il y a des discussions qui auront lieu, mais encore une fois, il faut que ça se fasse sur la base véritablement d'une ligne, de l'axe, du cap que nous voulons pour notre pays, qui est quand même largement aujourd'hui fragilisé avec cette crise. Et ça, c'est notre objectif premier. C'est pas de la tambouille politicienne qui désignera ou qui en fera en sorte que un tel soit candidat. C'est véritablement le cap qu'on veut donner pour le pays. Sinon, la politique ne sert plus à rien.
On parlait d'alliance, de discussion, tout au moins, au sein de la gauche. Vous ne parlez jamais des insoumis.
Bien. Il y a eu... Alors, c'est vrai que j'en parle pas. J'ai des divergences avec eux sur pas mal de sujets.
Par exemple ?
Pour autant, mais je vais vous donner d'autres exemples, pour autant, lorsqu'il s'agit à l'Assemblée nationale de faire un recours au Conseil constitutionnel, nous en avons fait 28, nous avons aussi cette capacité à discuter, à être en capacité de déposer ces recours. Mais encore une fois, je pense que la gauche réformiste, celle qui veut porter des projets, celle qui veut être en capacité de faire, celle qui n'est pas toujours dans l'invective, c'est, à mon avis, c'est celle que je soutiens, et je regrette un certain nombre de prises de position qui ont pu être portées, mais notamment sur les aspects de la République ou de la laïcité, qui pour moi sont une véritable colonne vertébrale pour la gauche.
Ou ce tweet de Jean-Luc Mélenchon ce week-end qui soutient les antipasses, ça vous gêne ?
Ben oui. C'est les antipasses, c'est véritablement toujours de jouer sur des fractures, et je pense que au moment où on en est aujourd'hui, on doit plutôt jouer sur le rassemblement du pays plutôt que activer ou en tout cas soutenir des fractures qui sont dangereuses.
Le PS et les Insoumis, c'est les gauches irréconciliables, pour reprendre les termes de Manuel Valls en 2016. C'est toujours le cas.
Pour l'instant, en tout cas, il est clair que les stratégies de fracture ne sont pas les miennes.
Vous parliez d'Anne Hidalgo à l'instant, la maire de Paris. Elle en est où ? On l'entend plus.
C'est parce que vous n'avez peut-être pas tout suivi. Mais il y a eu, elle a rassemblé une équipe de France à Villeurbanne. Et je ne vais pas vous mentir, moi ça fait 20 ans que je suis au Parti Socialiste, je pense que c'était une des réunions les plus intéressantes à laquelle j'ai assisté. Avec des jeunes générations qui sont en responsabilité, des moins jeunes aussi, mais qui ont été capables sur leur territoire, que ce soit Périgueux, que ce soit Rennes, que ce soit Lille, que ce soit Nantes, que ce soit la région Occitanie, que ce soit Montpellier avec Michaël Delafosse, à porter des politiques concrètes. Eh bien, ça, je maintiens que toute cette énergie-là, cette équipe de France autour d'Anne Hidalgo, il faut qu'elle soit en capacité de transformer cet essai au niveau national. C'est-à-dire que une politique nationale, c'est pas l'agrégation de politiques locales, mais elle doit s'en inspirer. Il y a rien qui est inventé, qui part de rien, qui est hors sol. C'est véritablement cette dynamique-là qui est en train d'être construite autour d'Anne Hidalgo.
Il y a un calendrier, il y a une primaire. Est-ce qu'on peut nous en dire un peu plus?
Il n'y a pas de primaire. Enfin, en tout cas, ma connaissance. Hein, moi, je ne suis pas premier secrétaire du Parti Socialiste, mais il y aura effectivement une consultation des militants pour désigner le ou la candidate que nous soutiendrons.
Il y a une primaire populaire qui circule sur Internet en ce moment. Une poignée de citoyens engagés ont lancé un parrainage en ligne pour faire émerger une candidature commune à gauche. Figurez-vous que ce qui ressort du chapeau, les deux premiers, c'est Christiane Taubira et François Ruffin. Ça vous étonne? Ça vous inquiète?
Non, ça ne m'étonne pas plus que ça. Mais encore une fois, c'est une primaire qui, quand vous allez voter sur ce type de primaire, vous êtes déjà très engagé politiquement, donc il n'est pas étonnant.
Donc c'est biaisé, c'est ce que vous voulez dire.
Là, l'élection présidentielle, c'est rassembler 50,1 au moins pour cent des Français. Donc c'est la capacité de rassemblement doit être le premier moteur. Parce que sinon, vous pouvez porter des idées, mais vous les portez sur 6%.
Et ça
suffit pas.
Si c'était Christiane Taubira, elle disait hier dans un article au Figaro qu'elle n'avait pas peur de Marine Le Pen et qu'elle se lancerait dans la bataille si elle devenait la candidate naturelle de la gauche. C'est aussi une question sur notre appli France Inter de Léonie. Une candidature de Christiane Taubira qui semble de plus en plus probable, vu sa popularité. Est-ce que ça serait pas ça, elle, la solution pour la gauche? Vous en pensez quoi, Valérie Rabault?
Non, mais moi, j'ai énormément de respect pour Christiane Taubira. Je ne connais pas ses intentions. En tout cas, bon, j'entends ce que vous dites en répétant ses propos. Mais je le redis, les militants désigneront le ou leur candidate pour l'élection présidentielle. Et encore une fois, je maintiens que pour une élection présidentielle, la capacité de rassemblement, elle est indispensable.
Donc pour vous, c'est plutôt Anne Hidalgo que Christiane Taubira, si j'entends bien.
Je considère qu'Anne Hidalgo a fait ses preuves à Paris, qui est quand même, quand on a une ville de plus de 2 millions d'habitants, et qu'on a une majorité large et plurielle, on a déjà fait ses preuves.
Retour au standard avec Alain. Bonjour Alain, bienvenue sur France Inter.
Oui, bonjour mesdames.
Nous vous écoutons.
Je suis presque consterné d'entendre souvent des propos, et tous les samedis, les gens qui sont dans la rue, qui manifestent contre le vaccin, contre les mesures que prend ce gouvernement, ce sont quasiment des gens de gauche. Alors je me pose la question, est-ce qu'ils sont contre le gouvernement pour avoir leur place un jour, ou alors ils sont dans la rue pour essayer de sortir de cette pandémie et de bordel, excusez-moi du terme. Alors, s'il continue à faire comme ça, on ne va jamais s'en sortir.
Alain, pour juste vous situer, vous êtes étonné, vous êtes proche de la gauche et vous êtes étonné par ça.
Je ne suis pas de gauche du tout. Je tire mon chapeau à M. Macron qui essaie de nous faire avancer. Mais j'ai l'impression qu'il y a des gens de gauche qui font reculer la machine pour plus essayer de tout tirer les marrons du feu côté politique, côté sanitaire. Et ça me tape.
Alain, merci pour cette question, Valérie Rabault. En fait, il y a, on l'a vu, Philippot et compagnie, il y a aussi des gens de droite, d'extrême droite.
C'est ça que j'allais dire. Je ne connais pas les couleurs politiques des manifestants anti-vaccination. J'ai lu le tweet de Jean-Luc Mélenchon, mais j'ai aussi vu Monsieur Philippot qui est largement anti-vaccination. Donc, je ne suis pas certaine qu'il y ait forcément une couleur politique à l'anti-vaccination.
Ou
l'antipasse, mais ce qui n'est pas la même chose.
Tout à fait.
Ce qui n'est pas du tout la même chose. On peut être pro-vaccination et pas forcément pour le pass. Moi, ce que je considère, c'est que dans l'ADN de la gauche, il y a toujours eu le progrès et que le progrès repose aussi, pas que, mais repose sur les sciences, c'est-à-dire cette capacité à créer, à faire en sorte que demain soit différent d'aujourd'hui, avoir cette capacité à créer des médicaments. Vous savez, le jour où on découvrira le vaccin contre la maladie d'Alzheimer, je pense que ça changera la vie de beaucoup de personnes dans le monde, en France, et le pays qui le découvrira aura évidemment un avantage compétitif économique non négligeable.
Valérie Rabault, députée PS du Tarn-et-Garonne, présidente du groupe PS et apparentée à l'Assemblée, merci d'avoir été avec
nous. Merci à vous.
Sur France Inter ce matin. Au revoir. Bonne journée.
Bonne journée.
France Inter.